Est-ce qu'il y a des personnes pour qui c'est vraiment un tout nouveau contact avec le bouddhisme, quelque chose de complètement nouveau en personne? Je vais commencer par dire deux mots sur Shiné, sur la méditation qu'on vient de faire. Donc Shiné, on traduit par en français on traduit par calme mental. Shiné, c'est le terme tibétain qui veut dire esprit stable. Voilà, Shiné, esprit stable. En sanskrit, on dit samatha. Et donc c'est la méditation de base propre à toutes les écoles du bouddhisme. Sur lequel éventuellement d'autres méditations vont pouvoir se développer. Et c'est une méditation qui est présente dans le bouddhisme et qui est présente aussi dans d'autres traditions. Et donc dans Shiné, on apprend à apaiser, voilà, pacifier l'esprit. On dit calme mental, mais ça ne veut pas dire que il se passe plus rien. Quand on dit calme mental, c'est pas un esprit où il se passe plus rien, c'est notre rapport avec ce qui se passe est apaisé. C'est-à-dire, on parle de stabilité, qu'il y ait mouvement dans l'esprit ou absence de mouvement. Un esprit stable, c'est pas un esprit où il se passe plus rien, c'est une stabilité. Qu'il y ait des pensées, qu'il n'y ait pas de pensées, qu'il y ait des émotions, pas d'émotions, qu'il y ait des choses qui se passent autour de nous, ou pas, silence, bruit, etc. C'est ça qu'on appelle Shiné. Et donc c'est un état de présence, un état d'attention à ce qui se passe. C'est-à-dire on est vraiment très conscient de ce qui se passe. On n'est pas du tout dans un état modifié de conscience ou... une sorte d'état artificiel de calme. C'est juste, on est à la fois lucide, à la fois très conscient et à la fois non perturbé. C'est-à-dire, on ne se laisse pas submerger par ce qui se passe. On n'est pas en réaction par rapport à ce qui se passe. Et souvent, les personnes. Associe Shiné au fait de s'asseoir sur le coussin. Alors que c'est pas de ça qu'il s'agit. Le Bouddha, en fait, quand il a parlé de Shiné, il n'a jamais enseigné, dans aucun texte qu'on trouve dans les sutras, il n'a jamais enseigné que Shiné, c'était le fait de s'asseoir sur un coussin et puis d'observer sa respiration et d'être en posture de méditation. Quand il a fait ça, il a décrit les conditions idéales, les plus favorables pour que cette stabilité s'élève dans l'esprit. Donc effectivement, il a parlé de conditions optimales, éventuellement se retirer dans un endroit silencieux, à l'écart du monde, à l'écart de l'agitation, en posture, avec sept points de la posture. Voilà, il a décrit vraiment les sept points, posture en lotus. Le dos droit, le menton comme ci, la langue comme ça, enfin vraiment. Et puis ensuite l'attention sur le support, le souffle, etc. Ça, c'est la méthode. C'est voilà, quand on peut, c'est comment on peut réunir les conditions optimales pour que Shiné s'élève dans l'esprit. Mais après, ce qu'on appelle Shiné, c'est pas la méthode, c'est le fait d'être en méditation, c'est-à-dire d'être stable. Et c'est un. Au contraire, ce qu'on espère, c'est que ça va quitter le coussin. Que cet état, on va pouvoir l'emmener quand on discute, quand on travaille, quand on réfléchit, quand on se repose, etc. Je fais des rappels, hein, parce que là, je vois qu'il y a des nouvelles personnes, donc je rappelle ça. Et Et c'est vrai qu'aux débutants, les gens qui débutent dans la méditation, on va beaucoup dire, oui, chiner, si vous voulez que ça s'élève dans l'esprit, il faut en faire régulièrement, il faut en faire 30 minutes par jour. Voilà, il y a beaucoup d'instructeurs qui vont dire la régularité, ça paye. Donc faites-en tous les jours, faites-en régulièrement. Mais en même temps, quelqu'un qui a goûté à cette stabilité, il n'y a plus besoin. Il n'y a plus besoin, si on a goûté à ce que c'est que chiner, c'est-à-dire pas chiner sur le coussin, l'état de stabilité, il n'y a pas besoin que quelqu'un vienne nous dire faut en faire régulièrement, parce que quelque part, si on a goûté à ça, on a goûté au bienfait de l'esprit stable. C'est-à-dire, on voit bien que si après, si on a réussi à s'aménager, je ne sais pas, un moment de méditation le matin, et puis que on voit qu'au moment où on quitte le coussin, cet état de stabilité nous accompagne, on va voir que tout se laisse, tout est plus malléable, tout est plus facile. On voit bien que, par exemple, les problèmes, on se sent moins submergé par les problèmes, on sent que les facteurs perturbateurs de l'esprit, c'est-à-dire l'avidité, l'irritation, la colère, la jalousie, tous ces facteurs qui viennent. Ça se laisse beaucoup plus travailler. On sent qu'on est moins submergé par ça, moins emporté par ça. Donc forcément, on traverse les aléas de la journée de manière plus facile. Et puis en plus, il y a une espèce de félicité, une sorte de d'aisance à se mouvoir, parce qu'on sent que rien ne peut vraiment nous ébranler. Et donc, bon, bah, les problèmes sont plus faciles à gérer. Donc c'est sûr que quand on goûte à ça, il n'y a plus besoin que quelqu'un nous dise c'est important. C'est bien, on va pas se faire prier. Si on arrive à s'aménager un petit moment dans la journée pour éventuellement se donner un élan favorable, c'est-à-dire se poser 10 minutes, une demi-heure sur son coussin, bah évidemment, on va le faire, parce que bah, on sait que ça, c'est pour nous, quoi. C'est tout bénef. Quand on n'a pas goûté à ça, bah, c'est un peu c'est plus délicat, parce que bah, ok. On fait confiance, on joue le jeu, ok, on nous a dit qu'il fallait en faire régulièrement, et puis bah, quelque part on s'essaye, mais on essuie des échecs. Parfois ça marche, parfois ça marche pas, parfois on ne sait pas si on médite, parfois on ne sait pas si on fait bien, mais bon, bah, on joue le jeu tous les matins, on fait la méditation, parfois ça se passe bien, ça se passe pas bien, jusqu'au jour où bah, effectivement on va pouvoir goûter à ça. Et ça peut venir très vite, hein. Mais parfois non. Parfois ça peut prendre plus de temps, ça dépend des gens. Mais tout ça pour dire que parfois on peut pas. On ne peut pas s'aménager des moments de méditation dans la journée. Moi j'en ai fait l'expérience, justement, je suis parti en vacances avec ma famille pendant 15 jours, donc avec Esther, mon beau-frère, et puis leurs deux enfants en bas âge. Et entre ça et le monastère, il y a eu un contraste. Et bah, j'ai compris. J'ai compris quand les gens disent voilà, j'ai pas eu le temps de méditer. Je trouve pas le temps de méditer ma journée. Et bah oui, c'est je le savais en théorie. Enfin, je pouvais le comprendre en théorie, mais en pratique, ouais, c'est vrai que à moins de se lever à 5h du mat, et encore, on a le droit jusqu'à éventuellement 5h30 si on a du bol, avant que le premier vienne toquer à la porte. Tonton. Et puis bah, jusqu'à 21h. Si on a du bol. De voir qu'il n'y a pas un moment, parfois il n'y a pas un moment dans la journée qu'on poursoit. Et puis même, je me suis surpris parfois à quelque part essayer de trouver des combines pour essayer de m'extraire un peu du truc et puis faire ma méditation. Voilà. Et me rendre compte qu'en fait, bah, au lieu de pratiquer le dharma à ce moment-là, J'étais attaché à l'idée de pratiquer le dharma, c'est-à-dire me poser et m'extraire, finalement en lutte contre ce qui se passait, donc pas du tout en train d'épouser ce qui était en train de se passer, mais au contraire à faire le contraire de ce qu'est pratiquer le dharma, c'est-à-dire la résistance, et puis je cherche cet espace-là, et puis je le trouve pas, et puis l'irritation qui peut monter, la frustration. Et puis finalement, on est à côté. Sous prétexte de pratiquer le dharma, on ne pratique pas le dharma à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'on associe vraiment le fait de pratiquer le dharma à ça, c'est-à-dire à une méthode, au fait de s'asseoir sur le coussin, voilà, chiner. Et puis, alors qu'on a été disponible toute la journée, c'est-à-dire quelque part à donner entièrement de son temps, à faire une croix sur notre temps libre pour être présent à la personne, aux enfants, etc. On arrivait à se dire à la fin de la journée, j'ai pas eu le temps de pratiquer le dharma. Et c'est faux de se dire ça. Parce que quelque part, c'est pas ça la pratique du dharma. C'est pas le fait de s'asseoir sur un coussin pour essayer d'apaiser l'esprit. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire, pratiquer le dharma, si on n'a pas le temps de trouver un espace, voilà. Son petit laboratoire pour faire de la méditation sur le coussin, ça nous renvoie à cette question. Qu'est-ce que c'est que pratiquer le dharma? Donc on peut parler par exemple des paramitas. Donc pratiquer le dharma, le dharma, c'est l'enseignement du Bouddha. Quand on parle du dharma, c'est l'enseignement du Bouddha. On va voir qu'après, ça a une dimension au-delà de l'enseignement du Bouddha. On peut parler de dharma en tant que la vérité. C'est-à-dire que le dharma, la vérité ne se trouve pas seulement dans l'enseignement du Bouddha, elle se trouve partout, dans la vie de tous les jours, à condition que on utilise la vie de tous les jours comme une opportunité pour voir les choses telles qu'elles sont. Et là, ça devient un dharma. Mais du coup, voilà, qu'est-ce que c'est que le pratiquer le dharma? Si c'est pas la méditation sur le coussin, ça peut être les paramitas, par exemple. L'année dernière, on a parlé des paramitas. Bon, j'ai Comme avec le confinement, j'avais continué par Zoom, parce que j'avais pas fini, j'avais commencé en septembre, et puis après, on a continué par Zoom. Mais voilà, on avait parlé des paramitas, on avait parlé de la générosité. La générosité, c'est. On le voit qu'on a mille occasions de pratiquer la générosité, sans forcément s'asseoir sur le coussin. Le fait de donner de son temps, d'être disponible à l'autre, parce qu'il en a besoin, parce qu'on est sollicité, ça fait partie de la générosité. L'éthique, on pratique l'éthique. Il suffit simplement d'être conscient de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, pour avoir plein d'occasions de pratiquer l'éthique. Notamment la parole dans l'éthique, voilà. L'éthique bouddhiste, ça peut se résumer à faire en sorte de ne pas nuire à l'autre. C'est-à-dire renoncer à l'intention. C'est plutôt ça, renoncer à l'intention de nuire aux autres. Parce que parfois, on nuit à l'autre, mais sans le vouloir. Et ça, c'est pas de notre sort. Ça appartient aussi à l'autre. Mais en tant que pratiquant du dharma, on renonce à l'intention de nuire aux autres. On souhaite que l'autre ne souffre pas et donc on fait attention à ce qu'on fait avec l'esprit, avec la parole, avec le corps. Et la parole, voilà, on utilise beaucoup la parole. Et c'est très. Voilà, dans l'éthique bouddhiste, on nous dit de prêter attention aux paroles malveillantes, aux mensonges, à la calomnie, voilà, à colporter, voilà, des ragots, des choses comme ça, au bavardage, comment dire, inconséquent, voilà, sans retenue, sans prendre conscience de ce que ça fait émerger chez l'autre. Et c'est pareil, c'est-à-dire si on n'a pas une attention sur ce qu'on dit, sur ce qui se passe dans notre esprit, c'est vite fait en fait de balancer un truc. Sur l'autre, bon, c'est bon, c'est pas méchant, je rigole, on est entre nous, mais bon, on balance quand même, c'est vite fait. Et si on arrive à avoir de la retenue, malgré qu'on est sous pression, malgré qu'on n'a pas eu un moment pour nous dans cette journée, malgré qu'on n'a pas eu le temps de faire de la méditation, et puis que, voilà, on peut même être très sollicité de voir que quand on a de la retenue par rapport à ça, quand on se surprend, on a envie de dire ça, puis on se retient parce qu'on voit que, non, c'est pas clean, de voir que c'est une. Il faut le reconnaître, que là on est précisément en train de pratiquer le dharma. Et quelque part, quand on fait le bilan de la journée, bah on, si on voit ça, on ne peut pas se dire qu'on n'a pas pratiqué le dharma. Au contraire, on est complètement dans la pratique du dharma à ce moment-là. Et ce genre de choses, si on ne reconnaît pas ça, bah on finit par dire « j'ai pas eu le temps de pratiquer le dharma ». Donc c'est décourageant, c'est pas valorisant. Voilà, donc c'est bien de noter, non seulement de le faire, mais de se taper, enfin ouais, de se taper sur l'épaule, quoi. Pas pour comment dire, pas pour se la raconter, mais juste pour reconnaître que malgré tout, eh ben notre entraînement fait que on a pu avoir cette vigilance, on a pu être maître de ce qu'on avec de notre parole, de notre corps, et là on est en plein cœur de la pratique du dharma. Voilà, on pratique aussi la patience, la paramita de la patience, bah oui, c'est clair. Et on le pratique d'autant plus quand les journées ne sont pas faciles. On voit que on peut avoir de la retenue du fait de réagir à l'agression par l'agression. Se retenir de répondre de manière, comment dire, quand on est sous l'emprise de la colère, quand on est sous l'emprise de l'irritation. De voir qu'on peut gérer l'irritation et la colère autrement qu'en répondant par pulsion, par impulsivité, dans l'agression, etc. Ça, c'est la patience. Parfois, on aimerait bien que les choses s'arrêtent. Quand, là, pour parler des enfants, parce que j'ai un peu pratiqué, de voir que... Bon, je tiens à dire que j'adore les enfants d'Esther.
C'est bien. Je l'enseigne depuis un mois et demi.
Je l'adore, les enfants. Ces petits monstres. Non, c'est parce que c'est juste que je suis là-dedans. Là. C'est l'exemple qui me vient. Mais justement, le fait de ne pas avoir une once de méchanceté vis-à-vis d'eux, bah fait que justement c'est plus naturel. Je vois ce qui se passe. D'ailleurs, ça ne viendrait même pas à l'esprit de faire parler mon irritation ou de faire agir mon irritation. Mais n'empêche qu'elle peut être là, quoi. Quand on aimerait bien que ça s'arrête tout de suite. Et peut-être qu'on se dit, bah, il suffirait de gueuler un bon coup, voilà, d'exploser et puis de faire peur à tout le monde, que ce soit avec des enfants ou d'autres. Ça peut être une option qui germe dans l'esprit, quoi. C'est une bonne gueulante et puis voilà, ça s'arrête et puis vite, parce que là, ça a besoin que ça s'arrête. Ben là, la patience, c'est le fait de se dire, de comprendre que ça va, on n'aura pas gain de cause en situation. Peut-être que ça va s'arrêter vite. Peut-être que ça va soulager tout de suite, mais en même temps, on entrevoit que ça sera juste une source de problèmes supplémentaires à long terme. Donc, c'est là que la patience est de laisser cette irritation-là, c'est-à-dire on supporte l'irritation, on supporte l'inconfort de se sentir énervé, de se sentir touché, en colère, etc. Mais on accepte que ce soit là. Et on continue de répondre en mode, c'est-à-dire pas réaction, mais voilà, qu'est-ce qui est le plus intelligent à faire ? Qu'est-ce qui est la meilleure façon de répondre à ça ? En prenant conscience, en étant porté sur qu'est-ce que ça fait émerger chez l'autre, comment être à l'écoute de l'autre, qu'est-ce qu'il veut à ce moment-là, plutôt que juste, allez, j'appuie sur le bouton off et puis je pousse une bonne gueulante. Ça, c'est ce qu'on appelle la patience. Et on s'en vient, c'est vraiment un exercice de patience. Je voudrais que ça se règle, mais je renonce à ce que ça se règle tout de suite. Peut-être parce que j'ai pas encore toutes les cartes en main, peut-être parce que j'ai pas encore la bonne façon de dire les choses, j'ai pas, voilà, pas tout la patience. C'est très précieux, la patience. On dit que c'est vraiment une ascèse. Dans le dharma, on parle de l'ascèse par excellence, la patience. Vraiment une ascèse, quoi. C'est une véritable discipline. c'est pas pour ne pas apporter une réponse, c'est pour avoir la réponse la plus juste. Alors, pour avoir l'opportunité d'agir et pas de réagir. Mais on répond, hein, nécessairement. De toute façon, c'est quelque chose sur lequel je reviendrai dans ce week-end. Parfois, on parle d'observer l'esprit, que le cœur du dharma, ça nous emmène à observer l'esprit. Et parfois, on comprend observer l'esprit, on dissocie le fait d'observer l'esprit et d'agir, comme s'il y avait quelqu'un qui observe l'esprit et puis quelqu'un qui agit ensuite. C'est toujours de pair, ça va toujours de pair. C'est soit on est conscient de ce qui se passe dans notre esprit et nos actions et nos paroles en découlent, soit on n'est pas conscient de ce qui se passe et on est en mode réactionnel et nos actions en découlent. Et ce qu'on dit, ce qu'on fait, mais tout se traduit par une action. Il n'y a pas besoin de quelqu'un qui décide d'agir. C'est on observe l'esprit ou on n'observe pas l'esprit, mais l'action en découle nécessairement. Ce n'est pas deux choses séparées, observer l'esprit et agir. Il y aura une réponse, nécessairement. Et la réponse sera le reflet de comment est mon esprit à ce moment-là, comment je réagis à mon esprit, comment j'observe l'esprit, etc. Voilà, puis les paramitas, il y a la diligence, la persévérance dans la pratique, le fait de continuer, qu'il y ait des résultats, qu'il n'y ait pas de résultats. On continue à observer l'esprit, on continue à observer notre façon d'agir, de faire, etc. La concentration, la paramita de la méditation, c'est chiné. Chiné, au sens, pas à la méthode, mais au sens d'être conscient de ce qui se passe, d'être stable, développer la stabilité par rapport à ce qui se passe. Et enfin, la sagesse, le fait d'associer à toutes ces paramitas, toutes ces vertus, la compréhension profonde de ce que nous sommes. Vous avez vu dans la prière de refuge, maintenant on dit j'ai utilisé le terme paramita au lieu de vertu parce que aujourd'hui on revient un petit peu sur les traductions qui ont été faites parce que c'est important les mots. Et en France on a la chance d'avoir des érudits dans le bouddhisme tibétain, des Français qui d'abord sont des amoureux de la langue française, en plus sont des érudits, c'est-à-dire en termes de compréhension, d'études de la voie bouddhiste, c'est des pointures, notamment des gens comme Philippe Cornu, que peut-être vous avez vu sur Sagesse Bouddhiste, souvent il est invité, c'est vraiment un érudit, il y a Patrick Carré aussi. C'est des gens qui connaissent le bouddhisme sur le bout des doigts, toutes les écoles confondues, et puis qui vont revenir sur le sanskrit et vont dire on a traduit ça quand le bouddhisme est arrivé dans les années 60-70, on a traduit ça comme ça, mais finalement, si on y revient bien, parce qu'en plus c'est des pratiquants, ça serait peut-être plus juste de dire ça. Donc aujourd'hui, dans notre centre, la prière de refuge, on dit au lieu de dire je prends refuge, on dit je trouve refuge. Ça, c'est une nouveauté, et puis je trouve ça très bien en fait. Parce que je prends refuge dans le Bouddha, quelque part, ça ne veut pas dire grand chose. Je prends refuge. Alors que je trouve refuge, il y a l'idée de c'est tout de suite. D'ailleurs, je comprends que je ne peux pas trouver refuge dans le monde. Je trouve refuge en moi, c'est-à-dire en ma nature éveillée, qu'on appelle Bouddha. Pas je trouve refuge dans le Bouddha, le personnage historique, quand on dit je trouve refuge en le Bouddha, c'est je reconnais ma nature qui est en soi parfaite, dans laquelle il n'y a rien à corriger, rien à améliorer. Alors évidemment, il y a des voiles qui nous empêchent de le reconnaître, mais c'est ça la voie bouddhiste. La voie bouddhiste, c'est tout ce travail d'enlever les voiles pour reconnaître qu'en fait, il n'y a aucun problème avec ce qu'on est. Simplement on ne le sait pas. Nous sommes Bouddha, mais on ne le sait pas. Mais on peut avoir des petits aperçus de temps en temps. C'est le but de la pratique, c'est de provoquer des petits éveils avant la réalisation qu'en fait on a toujours été parfait, on a toujours été Bouddha depuis les temps sans commencement, on l'était avant, on l'est maintenant, on le sera. Notre nature est entièrement pure de toute souillure, elle ne peut pas être souillée de par nature, ce qu'on appelle la nature de Bouddha, sauf qu'on ne le sait pas. C'est ça le problème. On s'ignore. On appelle ça l'ignorance. Et par rapport à ce qui se passe dans notre esprit, on réagit de manière confuse parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe, on ne comprend pas ce que nous sommes. Donc dans notre manière de réagir, on crée la confusion. On se dit qu'il y a un problème. Et on appelle ça le samsara. Mais le samsara, ce n'est pas le monde dans lequel on vit, c'est l'état confus qui fait qu'on ne reconnaît pas notre nature de Bouddha. Mais de temps en temps, on peut avoir un éclair fugace. Même une fraction de seconde, même une minute, mais ça suffit en fait. Ça suffit pour nous montrer qu'il n'y a qu'en nous qu'on peut prendre refuge. Il n'y a qu'en cette nature de Bouddha qu'on peut prendre refuge. Et que c'est un refuge ultime qui ne nous quittera jamais. Mais il y a l'idée de « je trouve refuge ». Moi, j'aime bien cette idée-là. Je trouve. C'est même pas « je cherche », c'est « je trouve ». C'est là, c'est sous mon nez. Ça a toujours été là. Mais à un moment donné, je le perds de vue. Je me remets dans cette disposition. Je trouve refuge. Voilà. Et puis ensuite, il y a trouver refuge dans le Bouddha, qui est le refuge ultime. Ensuite, le Dharma, c'est la méthode qui nous permet de dissiper les voiles, qui fait que je m'illusionne par rapport à ce que je suis et que je ne reconnais pas cette nature-là. Donc je trouve refuge dans le Dharma. Et puis je trouve refuge dans la Sangha, c'est tous les êtres qui ont réalisé ce que le Bouddha a enseigné, donc qui ont réalisé leur propre nature de sagesse, et qui vont tout faire pour faire comprendre aux autres qu'eux aussi, ils ont cette nature-là. On appelle ça la noble Sangha. Noble Sangha, c'est tous les gens qui aujourd'hui manifestent l'éveil. Et donc, ils sont aussi importants que le Bouddha, parce qu'en plus, ils le manifestent dans notre monde contemporain, avec la compréhension de ce qu'on traverse culturellement, socialement, etc. Et donc, du coup, peuvent être un support de refuge, parce qu'ils vont pouvoir nous donner des instructions avisées pour nous permettre de reconnaître cette nature-là, de faire ce chemin-là. Et puis après, la Sangha, c'est aussi... Il y a la noble Sangha, c'est-à-dire ceux qui ont réalisé l'éveil, et puis il y a ceux qui aspirent à réaliser l'éveil, c'est-à-dire tous ceux qui cultivent. Comme nous, la vertu, on aspire à l'éveil, on a ce projet d'éveil, donc on va cultiver, on va utiliser les outils, et puis on va s'encourager les uns les autres. On va pouvoir devenir des amis de confiance, à qui on peut échanger sur notre chemin et puis se faire confiance, etc. Et puis aussi dans la prière de refuge, au lieu de dire par ma pratique du don et des autres vertus, on a remplacé vertu par paramita. Parce que vertu, les vertus n'ont pas le pouvoir de nous faire réaliser l'éveil, mais les vertus transcendantes, c'est le mot que traduit paramita, vertus transcendantes nous permettent de réaliser l'éveil. Par exemple, quand on parle de la générosité, quand on parle de l'éthique, ce sont des vertus. Et les vertus sont très précieuses, parce qu'en cultivant les vertus, on obtient, par la loi du karma, des conditions bénéfiques, des conditions positives pour nous. Et ça peut, les conditions positives, c'est tout, ça peut être le fait de ne pas avoir à se poser le fait d'avoir de vivre dans un environnement favorable, d'avoir un toit, d'avoir de la nourriture, d'avoir des gens qui nous aiment, d'avoir des instructions de pratique, d'avoir de vivre aisément, de vivre prospère. Tout ça, c'est des conditions qu'on appelle des bonnes conditions, des conditions excellentes. Et c'est le fruit d'un karma. Considère que si on a ces conditions-là, dans le dharma, c'est que c'est le fruit d'un karma d'avoir cultivé la vertu, d'avoir cultivé l'éthique, d'avoir cultivé la générosité, etc. Et puis, dans le dharma, on considère l'idée de vie antérieure. C'est-à-dire, si on a ça, c'est pas forcément... Dans cette vie, on l'a peut-être cultivé dans des vies passées. Et tout ça, c'est des conditions excellentes. Ces conditions excellentes, c'est pas forcément le fait d'être riche. Ça peut être le fait d'être pauvre, mais d'avoir le sentiment de ne manquer de rien. Parce que sinon, ça voudrait dire que être riche, c'est des bonnes conditions, être pauvre, c'est des mauvaises conditions. Pas forcément. Être riche, pour certains, c'est une condition difficile. Ce qui peut générer de la souffrance, alors que d'autres, le fait d'être pauvre ne pose aucun problème, au contraire. Mais, voilà, quand on parle de karma positif, c'est bien, c'est excellent, le karma positif, c'est tout ce dont on peut jouir comme condition favorable. Mais après, ce qui va nous permettre la libération, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces conditions favorables ? Parce qu'on peut ne rien faire, on peut avoir tout, on peut être au top du samsara, entre guillemets, c'est-à-dire jouir de tout ce que peut jouir un homme ou une femme dans cette vie, être très puissant, la renommée, la richesse, le plaisir. Et en même temps, simplement le consommer. Consommer sans en faire quelque chose, sans aller plus loin. Et donc, ces circonstances qui sont conditionnées, elles finissent par disparaître, elles ne sont pas acquises pour de bon. Donc si on n'en fait pas quelque chose, ça ne servira à rien, au bout du compte. Par contre, si on utilise ces conditions favorables dans un but de s'éveiller à notre propre nature, de comprendre pleinement ce que nous sommes, ce que sont les choses, du coup, on va parler de libération. Et dans les paramitas, on dit qu'il faut toujours associer la générosité, il faut toujours associer l'éthique, la patience, la persévérance à la paramita de la sagesse. C'est cette sagesse, c'est le fait de voir les choses telles qu'elles sont, sans confusion, qui va nous permettre de pratiquer la générosité sans saisie d'un sujet qui pratique la générosité. Pratiquer l'éthique sans saisie d'un sujet qui pratique l'éthique. D'ailleurs, on va se libérer de la saisie égotique qui fait que je suis un généreux, je pratique la générosité, donc je suis un généreux. Je pratique l'éthique, donc je fais partie des gentils. Enfin, vous voyez, je caricature, mais c'est un peu... voilà quoi, il y a le camp des bons et puis le camp des méchants. Il faut se libérer de tout ça. Comprendre que c'est... que là, on est en train de fabriquer quelque chose par rapport à un élan de générosité qui n'a pas lieu d'être. Et donc, du coup, on ne fait que... Bien sûr, il y aura les fruits de la générosité, mais on alimente une confusion. On n'ira pas plus loin. Il faut dépasser ça. Voilà, je parle des paramitas, mais après, c'est vrai que, ici, on avait vu l'Ojong. On avait vu l'entraînement de l'esprit. Ça peut être une façon de pratiquer le dharma quand on n'a pas le temps de pratiquer de manière formelle. Voilà, je ne sais plus ce qu'on avait vu, mais après on va puiser dans les enseignements du Bouddha tout ce qui nous parle et qui nous permet de reconnaître que dans une journée, on a plein de façons, plein de moments, plein d'opportunités de pratiquer le dharma. Ça va jusque-là ? Alors avec les autres groupes, cette année, j'ai pas encore trouvé de thème. J'ai pas encore trouvé de thème pour un cycle d'enseignement et du coup, je me suis dit que j'avais fait, avant d'en trouver un, je vais faire des parenthèses quoi, sur ce qui me parle en ce moment. Et je voulais parler du fait d'observer l'esprit. Et d'observer l'esprit. C'est une formule qu'on trouve dans toutes les écoles du bouddhisme et dans d'autres traditions, observer l'esprit. On trouve ça dans le bouddhisme vietnamien, on trouve ça dans le bouddhisme zen, on trouve ça dans le bouddhisme tibétain, on trouve ça dans l'hindouisme, on trouve ça dans les contemplations chrétiennes, observer l'esprit. Et c'est une formulation qui m'a toujours un peu... jusqu'à maintenant, qui me dérangeait. Parce que j'avais du mal à comprendre. On me dit, c'est le cœur du dharma, et on dit, il suffit... quelque part, tout revient à observer l'esprit. Et voilà, moi, ça me dérangeait cette formule, parce que observer l'esprit, et puis qu'est-ce qu'on observe, hein? Qu'est-ce que ça veut dire observer l'esprit? Qu'est-ce que je dois regarder? Et puis qui observe l'esprit? Et puis en quoi ça va changer le schmilblick? En quoi ça va gérer mes problèmes d'observer l'esprit? Voilà, donc... Après, j'ai écouté d'autres enseignements où c'était formulé un peu différemment. Et donc, du coup, ça me permet aujourd'hui de faire le pont. Je comprends mieux. Mais voilà, on nous dit que tout converge dans le dharma. Tout converge là, vers ce point. Observez l'esprit. Et pour vraiment pouvoir, alors observer l'esprit, on le dit à tous les niveaux, mais en même temps, c'est l'instruction ultime. C'est l'instruction la plus directe. C'est celle qu'on va trouver vraiment dans les enseignements les plus profonds du bouddhisme, notamment dans l'enseignement du Mahamudra, dans l'école Kagyu. L'enseignement du Mahamudra, c'est l'enseignement le plus ultime. Il n'y a pas quelque chose au-delà, c'est l'enseignement le plus direct. Selon les écoles, on va parler de Dzogchen. Chez les Kagyu, on parle de Mahamudra. Chez l'Enigma, on parle de Dzogchen. Voilà, mais ça revient pratiquement au même. En fait, quand on parle des écoles, c'est des lignées. La lignée, dans le bouddhisme, c'est quelque chose qui est très important, qui est fondamental. C'est ce qui va nous permettre de faire confiance à la transmission. C'est de comprendre que cette transmission, elle n'est pas là, elle vient pas de la dernière pluie. Elle remonte jusqu'au Bouddha Sakyamuni. Et cette lignée, elle a produit, je ne sais pas si c'est le mot, mais elle a généré des générations d'éveillés. Et ils ont suivi l'enseignement du Bouddha, ils l'ont réalisé et ils ont pu le transmettre. Et aujourd'hui, en le transmettant, leur transmission a toujours de la force, toujours de la puissance, parce qu'elle génère d'autres personnes qui réalisent l'enseignement du Bouddha il y a 2600 ans. Et ça va nous permettre, si on comprend l'importance de la lignée, si on a à la fois du respect et et on donne de la valeur à l'enseignement du Bouddha, on va donner de la valeur aussi à tous les maillons qui font que le message du Bouddha, la réalisation du Bouddha arrive jusqu'à nous. Et dans le bouddhisme tibétain, c'est quelque chose qui est très puissant. Dans certaines écoles du bouddhisme, il y a vraiment le Bouddha, c'est le personnage central. Les sutras, c'est les seuls enseignements qui ont de la valeur. Et on ne se fie qu'aux sutras. Et c'est très bien. Aucun problème. Mais dans le bouddhisme tibétain, on va aussi considérer que tous les maillons qui ont réalisé l'éveil, ils sont aussi précieux que le Bouddha, surtout les maillons contemporains. Parce qu'on peut y avoir accès, on peut recevoir des instructions directes. Et comment on va pouvoir leur faire confiance? On va pouvoir leur faire confiance en comprenant que ils n'ont pas fait leur truc de leur côté, c'est juste qu'ils ont suivi la méthode telle qu'on leur a transmise, et la personne qui leur a transmis, elle a suivi la méthode. Et donc, la méthode est toujours valable. On peut se fier à l'enseignement qui est donné. Et puis, ça sera une transmission qui sera vivante, parce que la personne... Elle nous transmet pas seulement des mots, elle nous transmet sa réalisation. Moi, quand j'ai la chance de rencontrer, par exemple, des maîtres au sens, pas des maîtres des gens qui ont une ascendance sur leurs disciples ou des choses comme ça, maîtres au sens, ils ont la maîtrise de leur esprit, ils ont réalisé la véritable nature de leur esprit. Pour moi, ça a autant de valeur d'écouter un enseignement public avec eux que de déjeuner avec eux. Parce que je vais pouvoir les voir dans leur quotidien. Et même si certains ont une attitude absolument ordinaire, voilà, si on regarde bien, on peut voir que leur attitude n'est pas si ordinaire que ça. Ils ont une façon d'être, une façon d'être en relation avec les gens, de parler, de répondre à telle situation... quand on scrute, parce que c'est mon job de disciple, je veux vérifier, c'est pas parce que quelqu'un on dit qu'il est un maître qu'on doit valider, quoi. Donc ben, je regarde intensément comment il réagit à ça, etc. Et puis, ça, c'est l'occasion de recevoir des enseignements. Si mon esprit est suffisamment réceptif, eh ben, je peux recevoir même des enseignements plus profonds qu'un enseignement oral sur un texte, sur un sutra, etc. Et dans le bouddhisme tibétain, c'est, du coup, ça a beaucoup d'importance. Le fait d'inviter des maîtres à enseigner, et puis de les fréquenter, et puis de travailler avec eux, etc. Donc pourquoi je parle de la lignée ? Oui, donc dans la lignée Kagyu, donc dans les écoles tibétaines, il y a quatre lignées. Et les lignées, en fait, bah, c'est le Bouddha a eu des disciples, qui ont eu des disciples, qui ont eu des disciples, etc. Et donc, ça fait des lignées de transmission. Puis parfois, les lignées se mélangent. C'est-à-dire, un maître peut avoir eu plusieurs disciples qui se rejoignent, enfin voilà, ou plusieurs lignées peuvent découler d'un maître, etc. Mais dans la lignée Kagyu, les instructions essentielles, c'est les instructions du Mahamudra. Je vous le dis parce que vous pouvez trouver ça dans les textes, par exemple. Les instructions du Mahamudra, il n'y a pas plus élevé. Et dans les enseignements du Mahamudra, il s'agit vraiment de laisser l'esprit tel qu'il est. Il y a une reconnaissance qu'en fait, il n'y a jamais eu aucun problème avec notre esprit. Et que tout ce qu'on fabrique par rapport à notre esprit, eh ben, on passe à côté. On passe à côté de l'essence dans notre esprit. J'y reviendrai, mais c'est juste une parenthèse pour vous dire que chiner, c'est très bien, mais ça ne suffit pas à la libération. Et même parfois, ça peut devenir un obstacle si on ne comprend pas pourquoi on pratique chiner. On nous explique que chiner, c'est fait pour apaiser les émotions, pour avoir un esprit plus stable, mais pas pour que ce soit une finalité en soi. C'est pas la finalité que l'esprit soit stable. C'est pour pouvoir observer l'esprit. C'est là que doit nous emmener Chiné. Observer l'esprit dans tous ses états, avec tout le panel qui peut émerger dans l'esprit. Pas seulement la joie, pas seulement la stabilité, pas seulement la félicité, mais aussi l'irritation, le chagrin, la tristesse, l'anxiété, etc. C'est là que doit nous emmener Chiné. Le but, ce n'est pas d'avoir l'esprit stable pour avoir l'esprit stable. Le but, c'est d'avoir l'esprit stable pour qu'on puisse regarder ce qui se passe dans notre esprit. Et c'est important parce que on va revenir à l'enseignement du Bouddha, le premier enseignement du Bouddha, les quatre vérités des nobles. On va revenir là-dessus parce que on va voir que dans cet enseignement-là, c'est l'enseignement qu'on dit au début, mais en fait, on se rend compte que cet enseignement, il contient tout. Il y a quelque chose qui est caractéristique de l'enseignement du Bouddha, c'est que ce qui est extraordinaire dans son enseignement, c'est que selon notre maturité spirituelle, on va écouter le même enseignement et on va le comprendre différemment. Et quand je dis différemment, on va même entendre autre chose que ce qu'on avait entendu au départ. Et même si on entend autre chose, il n'empêche que ce qu'on avait entendu au départ, c'était juste, et ça nous a permis de l'entendre à un autre niveau, et on va entendre d'autres choses. Donc on pourrait passer son temps, et d'ailleurs c'est ce que je fais, je répète souvent les quatre vérités des nobles, parce que même moi, quand j'ai l'impression de réciter la même chose, à un moment donné, au moment où je le récite, et ben en fait, je le comprends différemment. Et c'est au moment où je le formule. Parfois, ça peut se passer comme ça. Je l'écoute ou je le transmets, je le partage, et au moment où je le partage, tiens, mon sang, je ne l'avais pas compris comme ça. Ou alors, ce qui se passe, c'est que dans mon cheminement, et je pense que ça nous arrive tous à un moment donné, dans notre cheminement, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un éclairage qu'on n'avait pas vu. Et depuis cet éclairage, c'est très intéressant de revenir sur les enseignements fondamentaux et de voir que ça tient, non seulement ça tient la route, mais on ne l'avait pas entendu comme ça. Et du coup, ça revêt un caractère encore plus profond. Et on voit la magie aussi derrière la pédagogie du Bouddha. C'est incroyable. On entend une chose à un moment donné qui va nous faire progresser, jusqu'au point où on n'entend plus du tout la même chose, et c'est encore ça qui va nous faire progresser. Et donc on peut imaginer que dans l'auditoire du Bouddha, il disait le même enseignement, et les gens qui étaient là entendaient un enseignement différent. Mais pour chacun, c'est un enseignement qui mène vers l'éveil. Et on dit d'ailleurs qu'une traduction de l'éveil, c'est de réaliser les quatre vérités des nobles. Donc c'est intéressant de voir que c'est l'enseignement fondamental, le premier enseignement, mais c'est aussi Yatou. Et je vais revenir à la première vérité des nobles, qui est Dukkha. Dukkha, on traduit par souffrance. Mais plus précisément, il faudrait le traduire par insatisfaction. Dukkha, insatisfaction. Et on se porte sur, donc d'abord on va porter notre regard sur tout ce qui notre expérience, parce que dans cet enseignement on nous dit bah voilà ce que le Bouddha enseigne, c'est que on cherche à être heureux, on cherche à être satisfait, mais il nous demande de constater qu'on ne l'est pas, on n'est pas satisfait. Au sens où on n'est pas comblé. On n'est pas comblé. Pourtant, on cherche le bonheur et on a essayé avec tout. Aussi loin qu'on se souvienne, on est très sincère dans notre démarche et on fait tout ce qu'il faut pour être heureux. On met les moyens. Mais on est toujours insatisfait. C'est-à-dire, on n'a pas trouvé quelque chose qui nous a définitivement comblé au sens, voilà, ça c'est le pied. Je peux enfin voilà, me reposer sur mes lauriers, il n'y a plus rien à faire. Non. Même quand on a rencontré la satisfaction, c'est toujours une satisfaction circonstancielle, temporelle. Et donc du coup, bah, force est de constater que je ne suis pas satisfait. Et c'est ça qui nous dit le Bouddha. Est-ce que vous admettez que vous n'êtes pas satisfait? Est-ce que vous pouvez décréter que vous n'êtes pas satisfait? Et ça, c'est très, très important de comprendre ça, de le comprendre comme ça, de décréter une bonne fois pour toutes, mais en fait, je ne suis pas satisfait. Et pour cause, je ne suis pas satisfait. Parce que le monde n'a pas le pouvoir de m'apporter cette satisfaction. Si j'essaye avec le plaisir, je vois bien que le plaisir, c'est super, mais ça n'a pas le pouvoir de me combler, ça n'a pas le pouvoir de me satisfaire. Et donc, dans les enseignements, on va dire, les phénomènes du monde sont insatisfaisants. Et c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Pas au sens où ça ne peut pas nous satisfaire temporellement. Le plaisir, voilà, il a cette dimension satisfaisante. Mais il est insatisfaisant, c'est-à-dire par nature. Au bout du compte, le plaisir n'a pas le pouvoir de me combler. Donc, il est insatisfaisant, je ne peux pas trouver le bonheur là-dedans. Je ne peux pas trouver le bonheur non plus dans les situations, dans les personnes, parce que on va parler de l'impermanence. Voilà, le fait que les choses sont transitoires, comme le plaisir. Comme voilà, une situation sociale, une situation relationnelle... Voilà, on a essayé avec... même, on voit, hein, les stars du showbiz pourraient penser que, voilà, elles ont des situations qui pourraient, qu'on pourrait envier, que ça pourrait nous combler d'être une star adulée, renommée, riche. Et on voit que, non, ça aussi, c'est transitoire. Que la richesse, la popularité, tout ça n'a pas... est insatisfaisant. Parce que, bah, on connaît le phénomène des stars déchues, des riches qui deviennent ruinés du jour au lendemain. Alors on voit bien qu'il y a ça. Et on n'est pas en train non plus de dire le contraire, qu'il faudrait être pauvre, en mauvaise santé, que personne ne nous aime. Bien sûr, ça aussi on voit que c'est des circonstances. Mais ni l'une ni l'autre n'ont le pouvoir de nous satisfaire. Les phénomènes sont insatisfaisants. Et du coup ça renvoie à Dukkha. Dukkha qui est... énoncé comme une vérité, la vérité de Dukkha. Je suis insatisfait. Il faudrait... Là, l'idée, c'est pas de se dire je suis insatisfait et de se complaire là-dedans. Je suis insatisfait parce que, voilà, etc. Et puis finalement, on continue à courir après les phénomènes ou à se mettre à l'abri des phénomènes et puis tout le temps se plaindre. C'est plutôt le décréter dans une sorte d'assurance, une sorte de fierté de... On peut se fier à notre lucidité. Je suis insatisfait et pour cause, je vois maintenant clairement en faisant le tour de la situation, qu'il n'y a pas un phénomène qui soit susceptible de me satisfaire. Donc pourquoi je courrais après les phénomènes? Voilà, c'est pas insatisfait au sens où je me complais en satisfaction, mais insatisfait au sens où l'assurance de comprendre pourquoi. Que dans ma manière de chercher à être satisfait, je fais fausse route. Donc, je renonce à chercher le bonheur dans ces phénomènes-là. Le fait d'être comblé dans ces phénomènes-là. Le fait d'être satisfait dans ces phénomènes-là. Ils n'ont pas le pouvoir de me satisfaire, j'en suis sûr. J'en suis certain. Et il y a une confiance qui peut naître de ça. Après, on ne s'arrête pas là. Hein. Mais il y a une confiance, que ce soit chez nous ou chez les autres, on le voit. Que les personnes qui espèrent être comblées, qui espèrent trouver satisfaction là-dedans, on peut être sûr qu'elles se trompent. On peut être sûr qu'elles auront, évidemment, des répits, des compensations, des satisfactions, mais ce n'est pas là qu'elles trouveront le fait d'être comblées, le bonheur ultime. Et nous aussi, bien qu'on ait cette certitude, même si on a cette certitude, on continue de chercher à réunir toutes les conditions qui nous sont favorables, clairement. Ça serait une aberration de se dire « Ok, j'ai compris ça, donc je vais aller m'enfermer dans une grotte et puis je me préoccupe plus de ma santé, je me préoccupe plus de mon alimentation, je me préoccupe plus de mes proches, je me préoccupe plus de mon bien-être. » On va juste se planter. Simplement, tout en cherchant à maintenir dans notre vie quelque chose des bonnes conditions, quelque chose qui nous fait du bien, etc., il reste qu'on comprend que ça ne peut pas nous satisfaire. Voilà, faut bien comprendre ça. Surtout pas aller dans un extrême, voilà, de comprendre que, enfin de le comprendre de travers. C'est simplement, j'en jouis, j'en profite, je réunis ces conditions-là, mais j'ai la certitude, voilà, je me laisse pas illusionner par l'espoir que ça pourrait être ça la libération. Non, si on a ces bonnes conditions-là, c'est pour les mettre à profit vers la libération. Et la libération, c'est déjà comprendre, se désillusionner par rapport au caractère satisfaisant des phénomènes. Aucun phénomène ne peut nous satisfaire. Aucun. Et là, on va parler de renoncement. Le renoncement, dans le dharma, c'est pas le fait de se priver des bonnes conditions, de ce qu'on considère comme favorable, plaisant, etc. C'est le renoncement à croire que j'aurai gain de cause, que je vais pouvoir obtenir la complétude, la véritable satisfaction à travers ça. C'est un état de lucidité, le renoncement. Je dis non à cette croyance. J'arrête de m'illusionner. Mais après, le truc, c'est qu'on pourrait s'imaginer que maintenant qu'on a compris ça, on va pouvoir pratiquer le dharma en cherchant la satisfaction à travers l'éveil qu'on envisage comme un état d'esprit. C'est-à-dire, ok, ça j'ai bien compris, les phénomènes du monde, je ne peux pas trouver refuge là-dedans, mais du coup, je vais pratiquer le dharma et développer des états d'esprit spirituels, comme le fait d'être stable, le fait d'être joyeux, le fait d'être bienveillant, le fait d'être... En fait, le piège, c'est de s'imaginer que la libération se situe dans des états d'esprit. Et on peut tomber dans ce piège-là, par exemple, si on devient habile dans la méditation de Shiné, et puis qu'en plus, on a développé autour de soi un environnement suffisamment calme pour maintenir un état de stabilité, se dire, voilà, c'est ça la pratique du dharma. La pratique du dharma, c'est d'avoir un esprit stable, d'être calme, d'être modéré, de ne pas avoir beaucoup de pensées, d'avoir... Et là, du coup, on fait fausse route. Parce que quand on dit ça, on décrète que l'éveil, c'est ça, et à contrario, l'éveil ne peut pas se situer dans l'irritation, dans le fait d'être instable, dans le fait d'être agité, dans le fait... Pas quelque part, on est à côté de la plaque, on fait exactement ce qu'on fait dans le samsara. Sauf qu'au lieu de se porter sur le monde, on se porte sur notre état d'esprit, on considère qu'il y a un problème avec notre état d'esprit, qu'il faudrait qu'il soit comme ci, comme ça, etc. Ça, c'est un état d'esprit vertueux, éveillé, et ça, c'est un esprit non vertueux, pas éveillé, etc. Et puis du coup, on Lui, il est éveillé, lui, il n'est pas éveillé. Lui, dans son chemin, pas génial. Lui, dans son chemin, il est avancé. On cale à l'éveil une sorte d'attitude. Et donc, on décrète que telle attitude correspond à l'image que je me fais de l'éveil. Puis telle attitude, ah ben non, lui, il parle trop fort, il crie trop fort, il est trop agité. Ça, lui, il est en chemin. D'ailleurs, il a du boulot. Et c'est le piège dans lequel on peut tomber. Si on ne comprend pas que chiné, c'est juste une méthode, mais ce n'est surtout pas la finalité. Là encore, il faut qu'on ait le renoncement. Le renoncement à croire que l'éveil est un état d'esprit en particulier. L'éveil peut se trouver autant dans la joie, autant dans la quiétude, autant dans l'esprit sans pensée, que dans l'agitation, que dans l'irritation, que dans l'anxiété. Il n'y a pas un seul état qui ne contient pas en lui l'essence de l'éveil, et c'est ça qu'il nous faut reconnaître. Donc il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas croire, il ne faut pas laisser de côté, craindre certains états d'esprit en les étiquetant comme négatifs, et puis se dire, ça c'est parce que là, bah quelque part, on sera dans le samsara. Un samsara plus subtil, avec une apparence plus spirituelle, mais on sera à côté du dharma. Alors bien sûr, pour pouvoir avoir ce renoncement, justement, à ne pas rechercher des états d'esprit, là encore, il s'agit de renoncement. Comprendre qu'il n'y a aucun état d'esprit qui ne soit en essence positif ou négatif. Par contre, notre manière d'y réagir, là, ça pose problème, effectivement. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Dans le dharma, il y a trois niveaux pour travailler avec ses émotions. Et elles s'appuient toutes sur le renoncement. Le renoncement à croire que quel que soit qu'un phénomène pourrait nous satisfaire. Donc effectivement, on renonce à croire que ultimement, hein, je dis bien, ultimement, on ne peut pas trouver de refuge dans le monde. On ne peut pas trouver la satisfaction dans un gouvernement, dans une politique, dans l'écologie, dans la diététique, dans le bien-être, dans la méditation, dans le yoga. Vous voyez, bien sûr, toutes ces choses, dans le monde, on va faire en sorte de continuer à cultiver les bonnes circonstances à la fois pour nous et pour les autres, parce qu'on sait, on comprend que si on en est là, et si on a même le loisir d'écouter un enseignement pour se libérer un peu plus de notre confusion, de notre souffrance, etc., bah quelque part, c'est qu'on bénéficie de circonstances, mais hyper privilégiées. Voilà, on a un toit, on a de la nourriture, on a des amis, on a une famille qui nous a élevés, qui nous a aimés, on a bénéficié voilà, d'éducation, du fait de pouvoir raisonner, de pouvoir communiquer, etc. Tout ça, ces conditions, elles sont mais inestimables. Donc quand on dit ça, faut pas comprendre, c'est pas pour dire on laisse de côté. Voilà, j'insiste toujours là-dessus parce que sinon ça peut être mal compris. Mais après, on doit comprendre que dans le dharma, de manière plus profonde, même si on fait ce qu'il faut pour, par exemple, travailler pour la cause écologique, travailler pour un gouvernement plus éthique, un gouvernement plus favorable, un mode d'alimentation plus meilleur, enfin voilà, tout ça n'a pas le pouvoir de nous satisfaire. Et une fois qu'on a compris ça, on va comprendre aussi que même nos états d'esprit, tout ce qu'on trafique sur notre esprit, pour le rendre comme ci, comme ça, etc., ça non plus, ça n'a pas le pouvoir de nous satisfaire. Ce qu'on essaye d'améliorer en nous, en termes de, voilà, j'ai un état d'esprit comme ça, je veux travailler là-dessus, etc., au bout d'un moment, sera une limite. Même si on se retire dans une grotte pendant des années et qu'on acquiert une concentration inébranlable, un chiné inébranlable, parce qu'il y a des... Avec chiné, on peut aller très loin. Personnes qui sont totalement inébranlables, et le Bouddha a fait cette expérience-là lors de ses ascèses. Avec chiné, on peut arriver à des états de stabilité qui fait qu'on fait ce qu'on veut avec son esprit. absolument ce qu'on veut. Et rien ne peut venir nous ébranler. Mais il y a toujours, pour maintenir cet état d'esprit, ben justement, il faut le maintenir. Que ce soit dans les circonstances extérieures, c'est-à-dire peut-être l'environnement, il faut qu'il soit suffisamment calme, suffisamment retiré, etc. Notre concentration doit toujours se maintenir d'une certaine manière. Et donc, du coup, s'il y a une circonstance qui manque, ben cet état d'esprit, il est compromis. Et donc, du coup, si on l'envisage comme étant la libération, on va voir que non. Si elle dépend de quelque chose, elle n'est pas la libération. C'est circonstanciel. Dans notre tradition, on va moins mettre l'accent sur chiné, c'est-à-dire on ne va pas essayer d'atteindre des chinés très très profonds pour observer l'esprit. On va faire juste ce qu'il faut pour observer l'esprit. Juste une stabilité, on va dire, minimum pour qu'on puisse observer ce qui se passe sans se laisser entraîner par ce qui se passe. Et puis on va essayer, on va se remettre sur le coussin, et puis on va goûter au caractère plaisant d'avoir un état d'esprit stable. Et à un moment donné, on pourrait se dire, tiens, je commence à être habile avec ça, et puis je commence à voir quelles conditions il faut réunir pour maintenir ça le plus profondément possible. Et on va voir que ça ne marche pas. Et c'est bien d'avoir cette désillusion à un moment donné. De voir que quoi qu'on fasse, au bout d'un moment, il y a une désillusion. Même le fait de vivre, je sais pas moi, dans un monastère, avec des gens bienveillants qui pratiquent sur eux-mêmes, qui cultivent l'éthique, avec des horaires pour pratiquer la méditation régulièrement, etc. À un moment donné, non seulement ça marche pas, mais en plus on peut voir que... il y a une tension qui se met en place du fait de vouloir cultiver un état d'esprit particulier et de ne pas y arriver. Et là, du coup, voilà. Ah, c'est parce que j'ai fréquenté telle personne, elle était vachement agitée, ça m'a... je la sens pas, elle a des ondes toxiques. Enfin, je sais pas, parfois, on rentre dans, j'entends des trucs comme ça, quoi. Ah, cette personne, je la sens pas, elle a des ondes... Et donc, du coup, ça m'a perturbé dans mon... vite, faut que je fasse ma mais faut que je me purifie avec des... Vous voyez comment on peut mais et ça peut marcher. C'est-à-dire ça peut marcher effectivement si je me mets à l'écart de tout ce qui vient me perturber etc. Ça peut marcher mais ça sera toujours conditionné. On ne touchera pas la libération et un jour ça s'écroulera. On ne pourra pas maintenir. Ça c'est pas de notre sort. C'est circonstanciel, c'est des causes et des conditions. Et donc, du coup, cette désillusion peut nous amener à comprendre plus profondément ce qu'on nous dit quand on nous dit observer l'esprit. Déjà, il faut quand même avoir la compréhension, même intellectuelle, ou même admettre, pourquoi pas, qu'en fait, il n'y a aucun problème avec ce que nous sommes. Que ce dont parle le bouddhisme quand on parle de l'éveil, c'est de réaliser ce que nous sommes. C'est pas d'atteindre l'éveil comme on voit dans certaines traductions, atteindre l'éveil. Sous-entendu, il y a un... Non, c'est plus juste de dire réaliser l'éveil. Réaliser l'éveil, c'est là, c'est tout le temps là. À aucun moment donné, on est coupé de ça et on le réalise. De manière peut-être plus successive, par des petits éclairs fugitifs, jusqu'à la réalisation totale, où il n'y a plus de retour en arrière, on sait ce que nous sommes. Et plus rien ne peut, quelque part, nous illusionner par rapport à ça. On a compris définitivement ce que nous sommes. Et pour ça, à un moment donné, il faut qu'on arrive à comprendre que même les états d'esprit positifs ne le sont que dans une parenthèse donnée. Aucun état d'esprit n'est négatif ou positif en soi. Ça dépend comment on y réagit. Alors, je reviens sur ce que je voulais dire. Il y a trois niveaux de compréhension. Au départ, on dit qu'il faut apaiser les émotions. Ça, c'est le premier niveau. Parce qu'en fait, ces émotions, on se laisse embarquer. L'irritation est trop forte ou l'avidité est trop forte. Et donc, du coup, on est poussé par l'émotion. Et on sait pas, on ne fait que réagir. On est en mode pilote automatique et on n'a aucune marge de manœuvre. Dans un premier temps, apaiser les émotions. Voire mettre de la distance avec l'objet qui fait émerger telle ou telle émotion qu'on n'arrive pas à gérer. C'est très bien, c'est très juste, ça fait partie du chemin. Et puis, même avancer sur chemin, il peut y avoir toujours des situations qui nous font partir au quart de tour et donc, du coup, qu'on ne gère pas. Donc, dans un premier temps, on met de la distance. On apaise. Chiner, etc., ça en fait partie. Les vœux de moine, c'est ça. Les vœux de moine, les vœux de laïque, c'est pourquoi on prend des préceptes. Par exemple, pourquoi j'ai le précepte de ne pas boire de l'alcool. C'est parce que si, par exemple, il y a une addiction à l'alcool, eh bien, dans un premier temps, mettre de la distance avec l'alcool, parce que pour éventuellement constater que je peux continuer à être heureux sans ça, pour éventuellement constater que c'est pas l'alcool le problème, c'est mon rapport à ça, ouais, mais dans un premier temps, voilà, mettre de la distance, ça va apaiser l'esprit. Dans un deuxième temps, on va travailler en transformant les émotions, c'est-à-dire en comprenant, là on va aller plus loin, non seulement on peut rester en contact avec l'émotion, mais en plus on peut la transformer en quelque chose de positif. S'il y a de la haine, on va méditer sur son antidote, l'amour. S'il y a de la jalousie, on va méditer sur son antidote, la réjouissance. Enfin, je ne sais plus si on les a vus, les antidotes, mais on n'est pas vus. Ça, c'est vraiment dans le Mahayana, dans le grand véhicule, la voie des bodhisattvas. On utilise les émotions comme des supports de méditation. S'il y a, par exemple, de la colère, on va méditer sur l'amour, l'amour au sens bouddhiste, c'est-à-dire le souhait que l'autre soit heureux, qui se souche sur le fait que je souhaite être heureux et je comprends que l'autre, pareil, il souhaite être heureux. On souhaite tous être heureux. Et donc, du coup, on va intégrer cette notion et la cultiver le souhait que l'autre soit heureux. En commençant par ce qui est le plus facile, nos proches, et puis ensuite voilà, les êtres qui nous sont chers, ensuite les êtres qu'on connaît mais avec qui on n'a pas forcément de lien particulier, puis voir ensuite même les personnes avec qui on a des conflits, qu'on n'aime pas, etc., mais comprendre quand même que eux aussi souhaitent être heureux, comme moi. Et donc on ne mérite pas plus d'être heureux, ni nos proches, que eux, on mérite tous d'être heureux. Voilà, on va, à force de cultiver cette idée-là, ça va créer des brèches dans notre haine, parce que c'est deux sentiments qui ne peuvent pas cohabiter. Elles vont venir en parallèle. Je te hais, en même temps, je comprends que toi aussi, tu cherches le bonheur. Quelque part, on n'est pas si différents. Ça vient... voilà, c'est deux sentiments qui ne peuvent pas être aussi intenses en même temps. On va méditer sur... quand on a de la jalousie, on va méditer sur se réjouir du bonheur de l'autre. La jalousie, pareil, dans le dharma, la jalousie, c'est le fait de ne pas arriver à se réjouir du bonheur de l'autre. Au contraire, quand l'autre est heureux, ça nous rend malheureux. Quand l'autre obtient des choses positives, qu'il manifeste des qualités, ça nous rend mal à l'aise, ça ne nous rend pas bien. Et on peut même, quand il lui arrive des trucs négatifs, eh ben on commence à se réjouir. C'est ça la jalousie. C'est un facteur perturbateur qui fait que c'est complètement tordu. Si vous voulez, on n'arrive pas à se réjouir. Le bonheur de l'autre nous empêche d'être heureux. C'est un voile. Et donc, pour l'antidote à ce voile, c'est tout simplement l'inverse. D'apprendre à se réjouir du bonheur de l'autre. Ce qui n'est pas facile, parce que quand on est sous l'emprise de la jalousie, cette instruction... Eh ben, au départ, elle est forcément artificielle. C'est-à-dire, on se force un peu, quoi. Ouais, mais... Content pour toi. Ça me fait plaisir. Attends. Mais il ne faut pas la négliger. C'est-à-dire, c'est vrai que c'est pas facile, mais n'empêche que si, dans cet instant, même artificiel, on arrive à avoir une once de sincérité, il y a quelque chose où on va voir qui va s'ouvrir dans notre cœur. La jalousie, c'est profondément inconfortable. Donc dès qu'il y a quelque chose qui vient ouvrir la jalousie, et dès qu'on s'en aperçoit, on n'a qu'une envie, c'est que ça se barre. Et quand on voit que même artificiellement, on arrive à créer cette brèche, et qu'il y a quelque chose qui se détend en nous, du coup, ça va devenir de plus en plus sincère, de plus en plus... Et vraiment, on va pouvoir développer ce sentiment de se réjouir du bonheur d'un autre, et on voit que ça ne nous empêche pas de nous sentir heureux. Que l'autre soit heureux, ça nous enlève rien, au contraire. C'est une opportunité pour se réjouir. Pourquoi ? Parce que la jalousie n'est pas de notre nature. C'est un voile, c'est quelque chose qui vient par-dessus notre nature, qui vient l'entacher. Mais du coup, elle nous coupe de ce qu'on est. C'est pour ça qu'on ne se sent pas bien dans la jalousie. On ne trouve pas de répit, on ne trouve pas de satisfaction à la jalousie parce que ça vient recouvrir ce qu'on est. Dès qu'on on arrive à se réjouir un petit peu du bonheur de l'autre, on retrouve. On se retrouve en contact avec ce qu'on est et du coup, ça va mieux. Quand on parle des facteurs perturbateurs, la jalousie, l'orgueil, l'irritation, on parle de souillure adventice. C'est des traductions que, enfin voilà, je sais. Adventice, ça veut dire que c'est pas de l'ordre de notre nature, c'est adventice, c'est par-dessus. Donc ça peut être nettoyé. Comme ça ne fait pas partie de ce que nous sommes, ça peut être purifié, nettoyé, retiré. On parle, c'est comme un miroir. On peut nettoyer le miroir parce que par nature, il est propre, il est lisse, il reflète. Donc s'il y a de la saleté, c'est des souillures qui sont adventices. C'est pas, sinon, si elles faisaient partie du miroir, on ne pourrait pas nettoyer le miroir. Voilà, et puis en fait, pour chaque facteur perturbateur, il peut y avoir voilà, des antidotes comme ça. Dans cette méthode-là, on transforme. Le rapport à l'émotion, ce n'est pas forcément de l'apaiser, c'est de le transformer. Ce qu'on ne sent pas de l'apaiser, on le transforme en autre chose. De la jalousie, on passe à la réjouissance. De la haine, on passe à l'amour. Et puis avec l'entraînement, on devient très habile. Et avec l'entraînement, ça devient un support. Ah, il y a irritation, tiens, je vais en profiter.
Et puis après, tu peux rappeler,
comment ?
Pour l'orgueil ?
Pour l'orgueil, on médite sur l'interdépendance. L'interdépendance, c'est le fait de comprendre qu'en fait, c'est le fait de... L'orgueil, il y a quelque chose de autosuffisant. Dans l'orgueil, c'est l'idée de « je me suffis à moi-même ». Ce que j'ai, ce dont je me réjouis, ce dont... En fait, on ne voit pas le caractère, la gratitude qu'on devrait développer par rapport à ce qu'on a. Donc on considère que c'est moi. Voilà, si je ne sais pas, si je suis doué, si j'ai du talent, si j'ai des qualités, si je ne sais pas, je suis en bonne santé, je suis beau, je suis, etc. Et ben, au lieu d'en tirer de la gratitude et de comprendre en fait toutes les causes qui en fait sont indépendantes de nous-mêmes, qui font que je bénéficie de ça, et ben, on cultive de l'autosuffisance, c'est-à-dire on ne voit pas que ça, on le doit. Par exemple, ça serait le fait de sentir beau et en bonne santé, d'en tirer de l'orgueil, en fait, c'est de ne pas voir qu'en fait, ce corps, pour qu'il soit là, on n'a rien fait, en fait, pour avoir ce corps-là. S'il est comme ça, s'il est en bonne santé, bah, c'est la nourriture, c'est les soins qu'on a reçus, c'est l'alimentation. S'il est beau, bah, c'est à nos parents qu'il faut... voilà, tout ce dont... voilà, si on sait... Si on sait communiquer, si on sait parler, si on avait, bah c'est l'éducation, c'est qu'on nous a appris à lire, c'est qu'on, si on a des talents, et ben on peut voir que c'est, on le doit à nos instructeurs, on le doit à nos professeurs, on le doit, voilà, l'idée de l'interdépendance. On se met à vraiment se pencher sur ce dont je me réjouis. Est-ce que c'est vraiment moi qui suis à l'origine de ça? Est-ce qu'il y a un moi? Voilà, et donc, pourquoi en tirer de l'arrogance si on constate qu'en fait, bah non. C'est juste des causes et des circonstances qu'on doit à 99% aux autres, et donc ça nous permet de transformer l'orgueil en gratitude. L'orgueil, c'est pas, alors c'est pareil, hein, c'est la traduction qu'on a, mais c'est pas seulement au sens occidental du terme rouler des mécaniques. Nous, quand on dit voilà quelqu'un qui est orgueilleux, quelqu'un qui est arrogant, c'est quelqu'un voilà. La pète était. Alors que là, l'orgueil, au sens bouddhiste du terme, c'est plus le fait d'avoir établi une sorte de système d'évaluation. On évalue tout. On s'évalue par rapport aux autres. C'est des systèmes de comparaison. Et donc, celui qu'on connaît, c'est souvent le complexe de supériorité. C'est-à-dire, je me sens bien quand je me sens au-dessus des autres. Il y a des gens, voilà, ils se sentent bien quand ils se sentent au-dessus des autres. Et donc, du coup, il va y avoir trois cas de figure. si ils ont quelqu'un qui se sent, qu'ils estiment, qu'ils évaluent, voilà, si on évalue quelqu'un, si on est quelqu'un, voilà, qui a un complexe de supériorité, et qu'en rencontrant quelqu'un, on l'évalue comme étant en dessous de nous, tout va bien, on n'est pas inquiet. Ça nous conforte. Si on voit qu'il y a quelqu'un qu'on évalue comme étant égal à nous, tout ça c'est tordu, hein. Ça n'a rien de juste, c'est juste un système d'évaluation au plus, moins. Égal à nous, bah, pour se sentir confortable, on va essayer de se la ramener, quoi. Et puis pareil, si on estime qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de nous, pareil. On va essayer de faire plein de choses pour se remettre dans notre zone de confort, qu'on a évalué comme étant notre zone de confort. Et l'orgueilleux est jamais tranquille, il n'est jamais quiet, l'orgueilleux. Il est tout le temps soulagé, inquiet, parce que à cause de ce système d'évaluation tordu, ben, il n'est jamais tranquille. Et c'est quelque chose qui va très vite. On rentre dans une pièce, il y a immédiatement un visage, même qu'on ne connaît pas, immédiatement des systèmes d'évaluation qui se mettent en place. Celle-là, tiens, comment je me situe par rapport à elle? Alors, il n'y a pas seulement le complexe de supériorité, il y a aussi le complexe, je me sens bien que quand je me sens égal. Donc, si la personne se met au-dessus, bah, je vais essayer de réajuster, de me sentir égal. Si la personne se met en dessous, je vais essayer de me. Mais pareil, c'est des systèmes de fonctionnement. Et puis, il y a le complexe d'infériorité, on sent bien que quand on se sent plus humble que les autres. Et donc, du coup, quand on rencontre quelqu'un qui nous paraît humble ou plus humble que nous, bah, on essaie de. Et là encore, c'est tordu et c'est toujours un système où on n'est jamais tranquille. On est toujours perturbé. Et donc, il faut méditer à ce moment-là sur l'interdépendance. Des choses, de comprendre que ce que nous estimons comme être nous, qui a de la valeur, etc., ou que ce qu'on estime chez les autres, en fait, c'est juste un ensemble de causes et de circonstances qui dépassent l'idée d'entité. Il y a une entité qui a ça, qui est ça, qui est. Non, c'est juste des causes et des circonstances en toute justesse. Donc on peut, elles se laissent tous apprécier. Toutes appréciées. On s'apprécie. En comprenant qu'on n'est pas seulement nous, on est un patrimoine, on a un héritage, on a une justesse de causes et de conditions, que ce soit dans nos mauvais côtés ou dans nos bons côtés. Très important de comprendre. Ce que nous sommes. Sens où on le porte. Et même les mauvais côtés peuvent devenir des ornements. Au sens, bah voilà ce que je porte. Par exemple, tout ce que la vie nous a. Voilà, parfois on peut dire, on peut entendre des choses comme ça, j'ai été abîmé par la vie, j'ai traversé des épreuves, etc. Au bout du compte, en chemin, on se rend compte que si on comprend qu'au bout du compte, ce qu'on est, il n'y a rien à réparer, il n'y a rien à améliorer, il n'y a rien à corriger. Et bien même ce qu'on a vécu comme étant des épreuves, comme étant des choses soi-disant à réparer, en fait ça va devenir des ornements. Ça va devenir des ornements au sens quelque chose qu'on va porter, mais comme quelque chose de beau. C'est la trace, le témoignage de nos épreuves qu'on a traversé, du chemin qu'on a parcouru, et il n'y a rien qu'il faudrait cacher, il n'y a rien qu'il faudrait. Au contraire, c'est juste une manifestation qu'on reconnaît en toute justesse. Et donc si on le reconnaît, si on l'assume, bah, ça permet aussi à d'autres de le voir à travers nous, à travers.
Ok, excuse-moi. Est-ce qu'on ne peut pas tomber dans la stigmatisation de ses défauts, tu vois,
Si.
dans
Ah
cette
bah
forme
si.
de
Ah bah
reconnaissance?
oui, bien sûr. Complètement.
C'est un
Si on
des dangers,
reconnaît pas, si
peut-être?
on reconnaît, tant qu'on est en chemin, effectivement, et on va quelque part, on n'y échappe pas. Parfois, on se dit, ouais, voilà, il y a quelque chose en moi qui cloche, hein, il y a quelque chose qu'il faut réparer, il y a quelque chose que j'ai vécu, qui est douloureux, etc. Et il y a stigmatisation, mais quelque part, tout le chemin, en tout cas qu'on nous propose dans le bouddhisme, l'intègre ça. Si on ne comprend pas aujourd'hui, même intellectuellement, qu'en fait il n'y a pas de problème, c'est pas un problème. C'est-à-dire l'enseignement du Bouddha, le Dharma est designé pour nous emmener à le réaliser, pour nous emmener à composer même avec notre vision de nous, c'est-à-dire imparfait, douloureux, complexé. Ça fait part, c'est inclus. Et heureusement, parce que quelque part, le Bouddha, il aurait pu se contenter de dire « Ok, bah, j'ai réalisé qu'en fait, il n'y a rien à faire, que tout est parfait en moi, etc. Bah, salut voilà. !» Voilà. Et puis, il aurait pu nous dire ça, il aurait pu se contenter de nous dire ça. Et, bah oui, moi je veux bien, mais en fait, on aura beau nous le rabâcher, quelqu'un peut nous le dire, si nous, on ne l'a pas vu, il ne va rien se passer. Il ne va rien se passer. Et il y a des... aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'éveillent. Alors, voilà, dans le contemporain, et puis on y a accès grâce au... avec la médiatisation, YouTube, etc. Moi, je me suis amusé hein, pendant une période à suivre un petit peu des chaînes comme ça avec des personnes qui me semblaient avoir compris quelque chose. Mais dans ces personnes-là, il y a des personnes qui ont eu une réalisation soudaine. Ils s'éveillent leur propre nature. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas le... Comme il n'y a pas de chemin, bah, tout ce qu'ils peuvent enseigner, c'est « Nous sommes parfaits. Vous êtes parfaits, il n'y a aucun problème. » Ok. Donc c'est bien qu'il y ait aussi d'autres méthodes, d'autres voies, c'est-à-dire d'autres... Ok, vous ne comprenez pas ça? Ok, on va commencer par faire chiner. On va d'abord développer un apaisement par rapport aux émotions. Et puis ensuite, d'autres... l'enseignement du Bouddha se veut, son challenge, c'est de pouvoir emmener tous les êtres à la libération. Donc pour avoir emmené tous les êtres à la libération, il faut pouvoir s'adresser à chaque profil particulier, offrir un chemin qui lui soit compréhensible, approprié, et éventuellement, de temps en temps, on plante des petites graines. C'est bien pour nous d'entendre que au bout du chemin, on va réaliser qu'en fait, il n'y a pas de chemin. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais c'est bien de l'entendre. Au bout du chemin, on va se rendre compte qu'il n'y avait rien à faire. En fait, il n'y avait rien à faire. Mais pour le comprendre, eh ben, il a fallu qu'on fasse un chemin pour réaliser qu'en fait, on était déjà, c'était déjà sous notre nez. On ne l'avait pas réalisé. C'est un peu comme dire, ben voilà, on sait nager, mais on ne sait pas qu'on sait nager. Et si un maître nageur nous dit « T'inquiète, tu sais nager, je vais te balancer à la flotte, t'inquiète, tu flottes. » Bah, qu'est-ce qui va se passer? On va se débattre et ça ne va pas marcher. Parce que, donc, bah, ok, pas de problème. Je vais t'apprendre à faire des mouvements parce que ce que tu sais faire, ne rien faire, c'est impossible, c'est anxiogène, donc on se met à se débattre. Et ben, avant de comprendre, oui, ben, on va apprendre des mouvements. Que ça, on sait faire des mouvements, s'agiter, etc. Donc, on va apprendre des mouvements pour nager. Jusqu'à un jour, on comprenne qu'en fait, oui, on sait nager. Et puis, c'est même pas, on flotte. Il n'y a rien à faire, on flotte. Voilà, bah, c'est un peu l'idée de l'enseignement du Bouddha. Il va y avoir plein d'enseignements, des enseignements de sens provisoire et des enseignements de sens définitif. Vous allez retrouver ces deux termes. Provisoire, c'est-à-dire, c'est pas qu'il ne nous dit pas la vérité, c'est pas qu'il ne nous dit pas tout, c'est qu'il nous dit la vérité qui, pour nous, va nous aider à aller plus loin. Et ces enseignements, on va les considérer comme provisoires. C'est qu'à un moment donné, ils vont être abandonnés. Quand on aura vu là où il veut nous emmener, ben on va comprendre pourquoi il nous emmenait là, mais pourquoi ça nous ouvre à quelque chose d'autre. Et on entend autre chose. Et ensuite, des enseignements définitifs, comme les enseignements du Mahamudra, où là, au contraire, il s'agira de ne rien faire avec l'esprit. Surtout, ne pas avoir les... Laissez tomber tous les réflexes qui nous font dire que tel état d'esprit, c'est pas bon, et tel état d'esprit, c'est bon, et que donc ça, il faut courir après, ça, il faut les rejeter, etc. Ce qui est vraiment pas facile à faire. Parce que ça va vite, hein. Quand on a l'irritation dans l'esprit, bah, regardez la vitesse à laquelle on considère que cet état d'esprit, il faut pas. Surtout pas d'irritation. Et quand on commence à déjà manager, trafiquer, fabriquer des trucs pour comment je gère ça, parce que ça, il ne faut pas que ce soit, etc. Le réflexe du pratiquant de Mahamudra, c'est au contraire. Ça peut aller très très vite aussi. C'est dès qu'il y a irritation, au lieu d'y réagir en termes de c'est bien, c'est pas bien, c'est là-dedans, il y a l'éveil. Je vais aller au cœur de l'irritation. Je vais plonger dans l'irritation. Et là, on peut avoir un aperçu de la nature de notre esprit, de voir qu'en fait, il n'y a aucun problème avec cet état d'esprit-là. Si il est là, c'est parce qu'il y a des causes et des conditions qui font qu'il est là. Et donc, on peut y aller pleinement. De toute façon, pourquoi chercher un autre état d'esprit que celui qui est là? Quand on a compris qu'il n'y en a pas un seul qui qui soit en lui satisfaisant, bah pourquoi celui-là plutôt qu'un autre? Vous voyez, le renoncement, ça va nous aider à ça, c'est que, bah ouais, je prends. Il n'y en a pas un qui est satisfaisant et il n'y en a pas un qui est obstacle à l'éveil. Donc le mieux, c'est de prendre absolument tout. Tout est bon pour l'éveil. Tout est faire feu de tout bois. Irritation, parfait. Frustration, parfait. Déception, parfait. Mais joie aussi, hein. Joie, parfait. Plénitude, parfait. Mais il faut cette compréhension. Enfin voilà, effectivement, ça demande un renoncement. Et ça relance une compréhension. Parce que si on n'a pas le renoncement, on peut se dire, ah ben c'est bon, j'ai tout compris, je peux me laisser aller à mes tendances à l'irritation. Et en fait, ou à l'avidité. L'attachement, l'avidité, etc. Ah ben, je peux y aller, en fait, puisque on a dit dans les enseignements, tout est bon pour l'éveil. Mais là, en fait, on voit bien que dans cette affirmation, il y a déjà une complaisance. Ah, génial. Si génial. Ben non. Si génial, c'est que quelque part, il n'y a pas la certitude que on est déjà en train de dire ce sentiment, il est meilleur qu'un autre, si c'est génial. Dans le renoncement du pratiquant du Mahamudra, tous les états sont ni positifs ni négatifs. Il n'y en a pas un qui est meilleur qu'un autre. Si on a vraiment cette compréhension-là, si on est capable d'envisager la frustration ou un sentiment d'humiliation au même niveau que de la joie, ou la plénitude, ou le calme, là, du coup, on peut vraiment observer l'esprit. On peut vraiment s'éveiller. Enfin, comprendre que la nature de ces émotions, elle a pour nature l'éveil. Ça ne veut pas dire qu'on met tout sur le même plan. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de reconnaître la joie de l'aversion. C'est deux sentiments qui sont complètement différents. Mais en essence, ils sont pareils au sens... C'est-à-dire, ils sont justes. Ils ont une justesse, il y a des causes et des conditions qui font que c'est absolument normal qu'il y ait de l'irritation là. Il n'y a pas lieu de remettre ça en question, il n'y a pas lieu, ça serait même lui faire offense que de vouloir le « Oh, ça c'est pas bien, ça c'est pas moi, c'est... » Ben non, on fait offense à la justesse des causes et des conditions qui... Et là, ça veut dire que on peut intégrer tous ces sentiments, toutes ces émotions. Après, je vais m'arrêter, je vous rassure. On va faire une pause. Enfin non, je pense qu'après on va arrêter. Ce qui peut du coup là ça va être ça, ce qui peut émerger, c'est une profonde libération quand on arrive à faire ça, quand on arrive à faire corps avec ces émotions sans les faire des catégories positives et négatives, parce que du coup on s'aperçoit qu'on peut les laisser être. Et on en est libre. On n'est pas poussé par ses émotions. Quand on est poussé par ses émotions, c'est qu'on est distrait. L'émotion elle-même, c'est qu'on pense soit s'en sortir, pourvu que ça s'arrête, ou alors pourvu que ça dure. Et il y a encore de l'espoir. Quand on est profondément insatisfait, entre guillemets, hein, on sait qu'on ne va pas trouver de satisfaction, de plénitude dans les émotions, on les goûte pleinement, et c'est ça la satisfaction. C'est de se dire, mais en fait, d'où viendraient les problèmes si plus aucune émotion ne pose problème? C'est-à-dire si on peut s'observer irrité, s'observer frustré, s'observer joyeux, s'observer calme, présent, l'esprit sans pensée, l'esprit avec pensée, l'esprit agité, l'esprit non agité, d'où viendrait le problème? D'où viendraient les problèmes? Et là, du coup, il y a une félicité qui naît dans l'esprit. Et là, on parle vraiment de félicité au sens, il ne s'agit pas d'un état d'esprit, de la félicité. Il s'agit de la confiance qu'il n'y a plus rien qui est une entrave à l'éveil. Que tout est bon pour l'éveil. Tout, on peut tout prendre. On prend tout. Donc, il n'y a plus une situation dont il faudrait se mettre à l'abri. Il n'y a plus une situation où il faudrait courir après. Il n'y a plus peur de se... Ouais, il n'y a plus de peur. Parce que, en fait, chaque phénomène qui émerge à l'esprit devient un support pour reconnaître ce qu'on est, se reconnecter à ce qu'on est. Et même à ce niveau-là, plus il y a d'émotions fortes, mieux c'est. Et là, du coup, vous voyez la différence entre le début de l'enseignement et les enseignements plus définitifs. Au début, c'est au contraire, modération, calme, etc. Mais à la fin du chemin, plus il y a de pensées, plus l'esprit agité, plus il y a d'émotions fortes, plus ça devient des supports. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme l'image que j'aime bien, c'est parfois c'est un son qui va révéler le silence. On cherche le silence et puis c'est un son qui va le révéler. Et ben, quand on est habile, quand on comprend pleinement les émotions, qu'on arrive à les voir, ben c'est justement une émotion forte qui va révéler l'espace qu'il y a autour. Et ça va devenir justement quelque chose qui va venir toquer à la porte pour qu'on reconnaisse la nature de notre esprit. Et ça nous reconnecte. Mais évidemment, là on parle d'enseignement, de sens définitif, c'est les enseignements les plus hauts. Et c'est pas grave si on les comprend pas. C'est pas grave si on voit pas comment pratiquer ça. C'est aucun problème, c'est juste, il faut le savoir quand même. À un moment donné, parce que ça nous évite de tomber dans des écueils quand on est sur le chemin. Après, c'est pas grave, la voie progressive prend le relais. C'est planté, on l'a dans un coin de la tête, et puis ça jaillira quand le renoncement sera suffisamment intégré. Mais pour l'instant, voilà, on peut se contenter de regarder tout ce qu'on cherche, tout ce qu'on essaye de trouver en termes de bonheur, de satisfaction, et de voir qu'il n'y a rien qui est susceptible de nous satisfaire. C'est déjà... C'est ça qui va nous emmener. C'est pas déjà, c'est rien que ça va nous emmener là où ça doit nous emmener. J'avais envie de... fallait que je le dise. On va faire la dédicace, puis éventuellement, si vous avez des questions, on verra ça cet après-midi. Par cette vertu, puis-je promptement réaliser le Mahamudra et sans l'exclusion d'un seul, établir en cet état tous les êtres. Merci. 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 Merci.